11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Ses ex l'appellent le giboulet de Mars parce qu'il tombe toujours à l'improviste. Celui qui ruisselle d'amour, Jérémy Lorca.
Bonjour à tous.
Avec ce soleil de février, elle a attrapé un coup de soleil en ce 1er mars, mais toujours pas de coup d'amour ni de coup de je t'aime l'éblouissante Léa Landau.
Mais un bon coup de bronchite aussi, bonjour.
Il dit toujours ce qu'il pense, mais ne pense jamais ce qu'il dit, même s'il n'en pense pas moins quand il en dit trop. Christophe Alévèque est parmi nous.
Bonjour.
En cette journée mondiale du compliment, ce matin, il a dit à sa femme « Tu es plus belle qu'hier, mais moins que demain. Si quelqu'un peut l'héberger pour la semaine, ça le dépannerait. »
Bah, j'ai pas compris. Ouais,
Jean-Philippe Vizini.
Bonjour, bonjour à tous.
Et celle qui n'a pas besoin d'aller à Rio pour faire le carnaval, il lui suffit juste de regarder sa garde-robe juste après la dernière démarque des soldes, la multicolore Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission à 11h30, nous recevrons la comédienne et humoriste Antonia de Rhindinger pour le spectacle Moi Je à la Cigale à Paris les 29 et 30 mars en tournée. Jérémy Lorca lui fera une déclaration. Oui. Et à partir de 11h45, Mounir Majoubi, secrétaire d'État en charge du numérique, sera notre invité. Léa Landau lui fera une interview 100% numérique.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
C'est la journée mondiale du compliment. Vous avez fait des compliments à quelqu'un ce matin, on vous en a fait. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ou qu'on vous ait fait, Jérémy?
Oh bah bien sûr, moi ce matin en croisant Léa, je lui ai dit « Maléa, t'es vraiment belle comme un accident de bagnole ». Et après j'ai dit à Jean-Phi, vraiment t'es l'homme de ma vie, mais il veut rien entendre.
Hein, j'entends rien.
Jean-Philippe,
moi ce matin j'ai fait un compliment à ma femme, je lui ai dit qu'elle était la plus belle.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Que les opposés s'attirent.
Sympa.
C'est vrai que ta femme est très belle.
Oui, c'est pour ça
que
je comprends
pas. Mais
ta fille
est très belle aussi.
Oui, je suis le seul intrus.
Ouais. Mais non. C'est bizarre.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Mercredi, il a fait jusqu'à 27 degrés dans le sud de l'Aquitaine. Je sais pas si c'est le réchauffement climatique, mais moi j'ai déjà réservé mes 2 semaines d'août dans un Picard surgelé de Roubaix.
Bon, alors dimanche, c'est la fête des grands-mères. Je sais, ça ne se fait pas de le dire avant, mais ça me fait plaisir parce que je l'aime beaucoup. Alors j'y vais. Bonne fête, Anne.
Mais... mais petite...
quoi ?
Petite enrhumée minable.
Dimanche, c'est la fête des grands-mères, du coup je vais l'emmener faire des tours de grand 8. C'est pas qu'elle aime ça, mais 96 ans, à un moment donné, il faut partir. Hein. Moi, je suis son seul petit-fils et j'ai besoin d'acheter une voiture.
Oh non !
Europe 1.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jérémy Lorca, Léa Landau, Jean-Philippe Vizini, Christophe Alévèque et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour VVF Village pour 4 personnes en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca.
Oui.
Non mais il faut prendre une photo de Léa Landau, elle a un verre devant elle avec 600 mouchoirs fripés.
Ouais, j'ai un gobelet, j'ai enfoncé mes 10 ou 15 mouchoirs que je viens d'utiliser dedans.
Elle essaye de lui refiler son truc. En fait. Moi, je suis en train de voir avec le délégué du personnel si je peux pas avoir une prime de risque.
Ça va. Vous êtes contagieuse, Léa Landau?
Non, plus maintenant, parce que je suis sous antibiotiques.
Non, elle l'est pas. Ça fait 2 semaines qu'elle nous tousse dessus. On serait tous malades si elle était contagieuse.
Mais tu veux pas te séparer de nous?
Mais non, mais je pense que j'ai attrapé froid ici en plus.
Mais ouais, justement, on vient plus.
C'est le moment de notre jeu. Dites-le avec votre voix rauque, Léa Landau.
Bien sûr, c'est le moment de notre jeu. Oh, devinez qui je suis.
Oh, sorcière.
on dirait une sorcière.
C'est vrai, mais sorcière bien aimée quand même.
Voilà, on va envoyer le jingle.
Bah ouais, quand même.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, 2 auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine. Cette semaine, comme toute la semaine, c'était vraiment des super cadeaux. Tentez de gagner un séjour pour 4 personnes en pension complète, vos vacances, en famille avec VVF Village. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble parmi 90 destinations authentiques en France, l'île de Ré, Megève, Jean-Lépin, Cap-Ferret. Vous retrouverez petits et grands tours d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez des bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions avec VVF Village. Allez voir sur vvf-village.fr et on joue d'abord avec Alexandre. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alexandre, vous avez 35 ans, vous êtes commercial dans le nord de France à Austricourt.
Oui, j'habite Austricourt, je suis commercial dans le nord, tout à fait.
Et vous vendez des yaourts?
C'est ça, oui.
Des yaourts 0% allégés ou des yaourts yaourts?
Ça dépend pour qui.
Et vous vendez des yaourts dans les supermarchés, en fait, c'est ça?
Dans les grandes surfaces, voilà, tout à fait.
Mais en fait, ils sont obligés de mettre vos yaourts, mais vous essayez d'en vendre plus ou qu'ils les mettent devant, en fait, comment ça se passe?
Tout à fait, oui. On vérifie le référencement des produits dans nos différentes enseignes. Et puis.
Et vous passez votre temps dans des rayons réfrigérés. Alors, vous avez un anorak ?
Non, j'ai un polaire.
Un polaire.
Il ne fait pas tout le temps. Il fait pas tout le
des
temps
petits damars. Hein.
Et vous écoutez, vous écoutez notre émission tous les jours ?
Sur la route.
Qui est votre chroniqueur préféré ?
Vizini.
Ouais, le champion.
J'en connais un qui va perdre au jeu.
On a un peu le même humour en fait.
Ah bah ah, voilà bah, ah, le oui. Fin, raffiné, le son, oui. Littéraire, tout ça.
Voilà, oui, la belle-mère.
Voilà. La belle-mère, voilà, et le rosé, et le rosé.
Vous avez rencontré votre femme sur un stade de foot ?
Ah ben bah ça me... voilà, c'est bien ça.
Ouais. Parce qu'elle était, fait, elle oui. Était supportrice, elle était dans le public.
Non, elle était venue chercher son frère avec son père et sa mère. Et...
Ah, vous avez rencontré voilà. Toute la famille d'un coup en fait.
Mais comment vous l'avez abordée ?
Moi j'entraînais le frère.
Ah, ah voilà. Et du coup elle venait regarder son frère se faire entraîner en fait.
Voilà.
Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Alexandre ?
Ça fait 14 ans.
Ah oui, quand même.
Un paquet de mi-temps, ça.
Ça fait un paquet de yaourts, surtout.
Ouais, ça fait un gros paquet de yaourts.
Et alors, vous continuez à être entraîneur de foot ?
Oui, tout à fait.
Et elle continue à vous regarder ou pas ?
Ah non, 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 elle évite de venir au stade.
Ah, maintenant qu'elle a concrétisé, ça ne l'intéresse plus, quoi.
C'est exactement ça, oui.
Et alors, vous voudriez ouvrir un centre de sportif de bien-être, ça qui vous plairait ? Vous voudriez changer de métier, en fait ?
Ah non, 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 moi je garderai mon métier. Ça, c'est le projet de ma femme que j'accompagne.
Ah, votre femme aimerait faire ça. Et vous, vous donneriez des cours alors dans le centre sportif ?
Ah non, 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 je n'ai pas les diplômes, mais je pourrais y participer avec les gens qui souhaitent faire des activités.
Vous jouez avec qui, Alexandre ?
Monsieur Vizini.
Ouais. Ah,
et on gagne. Hein.
Bah oui, en plus, c'est simple.
Ça sent les vacances.
Attention.
Et on gagne. Hein.
Ouais. Et crie pas, s'il te plaît.
Oui, ne crie pas.
Non, non, c'est bon.
Ouais, crie pas.
Non, non, c'est bon.
Vous êtes d'accord, vous trouvez ?
Oui, non, mais c'est bon, on y va.
Non, mais vous savez pas qu'il crie des fois.
Oui, mais là, parce que c'est l'adrénaline.
Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui te
le dis. Je vais crier.
Non, non, je me calme.
Très bien.
Attention, 40 secondes, top chrono.
Joueur de foot brésilien, il joue au PSG.
Neymar.
Ok. C'est celui qui chante, elle met du vieux pain sur son balcon. Là-bas.
Je sais pas, passe.
Ah, ok. C'est l'ancien président de la République avant Macron.
Hollande.
Ok. C'est la première ministre des britanniques.
Je passe.
Ok. Il s'est présenté pour le Parti Socialiste. Il a perdu, il a fait
Hamon,
sa...
Hamon,
ok.
Hamon.
C'est celui qui chante « Tu veux mon zizi ?» Oui, oui, oui.
Francky
Vincent. Ouais. Elle chante dans la famille Bélier, la chanteuse dans la famille Bélier.
Loan.
Ok. Il chante « It's a certain shape for you, nanana, nanana, shame for you. »
Je passe.
Celui qui chante là-bas, là-bas, tout est neuf et tout est sauvage.
Je passe.
5.
Bon, 5 bonnes réponses, c'est pas si mal, mais vous n'avez pas deviné Jean-Jacques Goldman.
Non, pourtant je suis fan.
Mais il a mal imité peut-être.
Mais non, j'ai dit là-bas,
tout à fait, ouais.
Que tu
bah, il aurait dit les enfoirés, c'était suffisant.
Oui, bah voilà, ne criez pas non plus. Ne criez pas.
Les enfoirés sont 72 sur scène.
Et c'était Ed Sheeran qu'il fallait deviner, qui s'est marié.
Ouais.
Voilà. Et puis Theresa May, quand même, Premier ministre britannique.
Ah, Theresa May, ouais.
5 bonnes réponses. L'espoir est permis. On va voir comment se débrouille Tatiana. Bonjour Tatiana. Tatiana, vous êtes seconde cuisine dans un centre de soins et de suite de réadaptation à Narbonne, c'est ça ?
C'est ça.
Et vous habitez à Salès d'Aude, en Occitanie.
Exactement.
Et vous avez une passion, c'est la cuisine. Et vous savez imiter la voix de Donald Duck ?
Ouais, plus ou moins, ouais.
Ah comment
ouais
ça fait ?
C'est vrai.
Ah, refaites-le.
Moi aussi, je le fais avec une bronchite, si tu veux.
Ah, c'est pas mal. Et vous écoutez l'émission tous les jours, Tatiana ?
Oui, le matin, tout à fait.
Et qui est vos chroniqueurs préférés ?
Bah, j'aime bien Ben H, mais il n'est pas présent aujourd'hui.
Ouais. Il n'est pas là.
Il est au ski.
Et Jean-Phi, bien sûr.
Et Léa ?
Non, pas trop.
Oui, si, j'apprécie Léa aussi. Mais aujourd'hui, elle est malade, pauvrette.
Ouais, c'est vrai. Vous avez vu ?
Et Jérémy ?
Et Jérémy, moins.
Oui, mais il ne faut pas le dire.
Ça fait 3 minutes que je prépare votre quiz.
Vous allez jouer avec qui, Tatiana ?
J'aurais voulu Jean-Phi.
Bah oui, mais il a été choisi.
C'est ça, bah, du coup, je vais prendre Léa.
Les femmes se battent pour moi.
Ah, okay,
Léa est une très bonne joueuse.
Il faut qu'on fasse plus de 5, hein, Tatiana. Donc, il va falloir être hyper concentrée et très
facile.
Réactive.
Attention,
ça marche.
Top chrono.
Celui qui chante la place des grands hommes, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans.
Patrick Bruel.
Oui. Elle chante Whatever. Nanana.
Shakira.
Oui. Elle, c'est l'ex de Hollande.
Ségolène Royal.
Oui. Elle, c'est la femme de Jacques, qui était président de la République, qui dit crac crac.
Bernadette.
Oui, lui c'est le mari de Mario Cotillard. Les petits
Canet.
Mouchoirs.
Canet.
Oui, oui, oui. Ça c'est un groupe de filles qui chantaient Wannabe. Il y a Mel B, Mel C, la sportive.
Belle
Girl. Ouais, tout à fait. Bernadette, faut dire le nom de famille de l'ancien président de la République.
Chirac.
Ouais, c'est ça. Yves Mandimanche, son père.
Drucker.
Oui. Ouais, c'est ça. Et non, son prénom
elle...
comme le mien.
Bah Léa.
Ouais.
J'ai l'impression que ça a duré un quart d'heure ce truc.
Ouais, c'est ça. Bravo,
c'est
Tatiana.
Parce que j'étais très bonne.
Bravo Tatiana, vous avez c'est gagné un séjour pour 4 personnes en pension complète, vacances en famille avec VVF Village. Vous pourrez choisir le VVF Village qui vous ressemble. Parmi 90 destinations authentiques en France, vous retrouverez petit et grand autour d'activités proches de la nature, du vélo, des randos, du paddle sur les lacs. Vous rencontrerez des gens sympas, partagerez de bons moments. Bref, vous ferez le plein d'émotions avec VVF Village. Allez vite voir sur vvf-village.fr. Bravo.
Oh, c'est génial, merci.
Faut un cri de joie.
Ouais.
Vous allez partir. Vous avez deux enfants en plus, donc c'est super.
Oui, on va partir en famille. Bah, d'ailleurs, la grande en a les larmes aux yeux que j'ai gagné.
Oh non, c'est vrai. Passez-la nous. Ouais. Passez-la nous.
Lilou.
Bon. Allez. Allô.
Allô.
Comment tu t'appelles?
Lilou.
Lilou.
J'ai compris Dijon. Moi.
Lilou, t'as quel âge, Lilou?
10 ans.
Et t'as vu que tu vas partir en vacances avec VVF grâce à ta maman?
Oui.
Et grâce à Léa un peu, mais bon. T'es contente?
Oui.
Tu vas aller où?
On ne sait pas encore.
Ouais. On ne sait pas encore.
Alors, non, tu sais que quand même, tu as des destinations super comme l'île de Ré, Megève, Jouan-les-Pins, Cap-Ferret.
Lilou, tu nous fais un cri de joie pour nous montrer que tu es contente?
Oui.
Et ça se passe bien les vacances? Tu fais quoi? Tu fais rien, quoi?
Bah, je vais faire du vélo.
Ouais.
Il y aura mon papi et ma mamie qui vont venir.
Ouais.
Et ça va? Tu les aimes bien?
Oui.
Et toi aussi, tu sais imiter la voix de Donald comme ta maman?
Non, pas du tout.
Et elle cuisine bien, ta maman?
Oui.
Bon, Lilou, on t'embrasse et continue à écouter l'émission.
Bisous.
Alors, Alexandre, on est désolé.
Bah, désolé, bah oui.
Oh là, vous n'êtes pas content,
bravo.
Alexandre. Bon, Alexandre, vous pourrez rejouer avec nous d'ici un mois comme vous êtes très sympathique, d'accord?
Avec plaisir.
On vous embrasse.
Bonne journée.
Tatiana, profitez bien. Tatiana, profitez bien de ses vacances et continuez à nous écouter.
Je vous remercie, bonne journée.
Gros bisous.
Au revoir, un cri de joie, allez, Tatiana.
Bisous.
Un cri de joie.
Ouais.
Et un cri de joie avec votre fille, les deux ensemble.
Ouais.
Génial.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire d'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Jean-Philippe Vizini, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca et notre invitée, la comédienne et humoriste Antonia de Rhindinger pour le spectacle Moi Je à la Cigale de Paris les 29 et 30 mars et en tournée dans toute la France.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Londo, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca et notre première invitée, une humoriste, comédienne, championne d'impro qui a élaboré son nouveau spectacle à partir d'impro retravaillé dans Moi, Je, J.E.U. Elle joue plus d'une vingtaine de personnages qui seront tous présents sur la scène de la Cigale les 29 et 30 mars. Applaudissons Antonia de Rhindinger.
Voilà.
Merci beaucoup, merci. Bonjour Antonia. Alors déjà, je ne sais jamais s'il faut dire Rhindinger, Rhindinger.
Oui, mais je crois qu'au bout de 10 ans, on va y arriver peut-être. Alors, de Rhindinger.
Rhindinger. De Rhindinger.
Ouais, ouais. En fait, il y a un N qui s'est glissé entre le E et le D et ça fait Rhin.
Qui fait chier tout le monde, faut le dire, parce que oui, tout le monde dit Rhindinger.
Mais Rhindinger, ça fait un peu snob. J'aime assez. J'aime assez.
J'aime bien.
Parce que vous êtes noble, Antonia, de Rhindinger.
Mais carrément, je suis la fille de Laura Merlin et de la marquise de Sévigné. on est noble. Parce qu'on a importé le houblon en Alsace, en fait.
Vous êtes une famille alsacienne.
Grâce à vous, la bière. Ouais. C'est grâce à nous.
Et votre grand-père était général quand même de division.
Ouais. Il était général, il était à Madagascar, en Cochinchine, tout ça. On soupçonne qu'il était dans les services secrets en fait.
Ah bon?
Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup des dossiers pas très.
Et comment une famille comme ça, noble, bourgeoise quand même, on peut dire,
peut engendrer une fille comme vous?
Non, mais comment ils ont vécu ça au départ, ce que vous avez fait?
Au départ, pas super bien, parce que je pense que, et maintenant que je suis maman, je peux comprendre, hein, quand on voit un enfant qui se lance dans les métiers du spectacle, ça fait un peu peur, parce que c'est des métiers assez
aléatoires. Vous aviez fait des études, maîtrise en éthologie, je sais même pas ce que c'est que l'éthologie.
Ethnologie.
Ah, ethnologie. Ils ont écrit éthologie sur la fiche.
C'est quoi, l'éthologie, ça existe, l'éthologie.
Oui, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Ethnologie, je sais.
Alors, l'éthylique aussi, ça existe.
Et j'ai fait ma maîtrise sur le Burkina Faso, exactement.
Et DEA en sociologie.
Oui, c'est ça. Voilà.
Et donc après ça, vous bifurquez, vous découvrez l'impro dans une cave à Strasbourg.
Oula, c'était quoi ce truc?
Mais il y avait un peu de ça, Oui, non, j'ai fait de l'impro, mais j'ai fait de l'impro avant, en même temps que je faisais mes études. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je faisais des études à côté de l'impro. Et donc il était important quand même que je commence à me consacrer à ma passion. Voilà, donc,
Vous avez de l'improvisation à haut niveau, vous avez été à Montréal dans des championnats et tout
ça. Ouais, j'étais championne du monde d'improvisation. Ça veut pas dire grand chose, mais.
En quelle année?
En 98.
Du monde.
En même temps que les Bleus. Voilà, mais on en a beaucoup moins parlé que Zidane, c'est très bizarre. Curieusement.
Et alors là, beaucoup de spectacles sur scène toute seule, c'est là où vous épanouissez le plus ou vous avez des envies de théâtre?
J'ai des envies de théâtre, j'ai des envies de cinéma surtout. Ouais, j'ai des envies de cinéma. Et pareil, il y a des petites choses qui vont peut-être se faire pour moi dans les années qui viennent. Donc je continue à espérer.
Vous avez vu dans le Danny Boone vous engager?
Dans La Petite Famille, ouais.
C'était une bonne expérience?
Génial. Au-delà du fait que c'est quelqu'un de formidable, je me suis beaucoup amusée sur le rôle.
Et vous étiez dans All Inclusive aussi, j'ai vu?
Oui, alors je joue une hôtesse de l'air. On me voit à peu près 3 minutes à l'écran. Je pense pas que ce sera le rôle de ma vie. Enfin, j'espère que ce ne sera pas le rôle de ma vie. Voilà.
Vous aimeriez jouer quoi au cinéma, Antonia Dreninger?
Ben j'aimerais qu'on me propose souvent un peu des rôles un peu coincés. C'est curieux parce que j'ai pas l'impression d'être si coincé que ça. Mais
même quand on vous connaît dans la vie, vous êtes assez débridé même.
Oui, voilà. Ouais.
Elle a commencé dans une cave.
Oui, plutôt. Mais bon, je pense que c'est la petite particule devant. Les gens se disent que je dois être assez dans mon élément quand on me fait jouer des paroissiennes ou des gens comme ça. Voilà. Alors que je ne fous plus les pieds dans une église depuis bien longtemps, quoi. Sauf pour.
Mais c'est votre éducation, même dans votre milieu social.
Je ne renie rien. Oui,
on va pas vous proposer un rôle de punk ou de.
Mais j'aimerais tellement, moi, qu'on me propose des trucs à la Virginie des Pentes et tout ça.
Ah, carrément.
Des trucs un peu dark.
Ouais. Un peu dark ou un peu drôle, mais dans un autre sens, quoi. Bon, voilà.
Destroy.
Mais voilà, ça viendra.
Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu Antonia Dreninger, qui ont vu ses spectacles, c'est une comédienne exceptionnelle.
Je laisse le silence s'installer après ce genre de réflexion.
Non, mais c'est vrai, vous transformez d'un rôle à l'autre quand même.
Oui,
vous avez une espèce de virtuosité technique même.
C'est un peu les buts du spectacle. C'est que j'ai fait plein de personnages très différents d'une fois à l'autre. je parle un petit peu plusieurs langues aussi.
Dans votre spectacle, vous avez inventé une ONG un peu spéciale.
Oui, c'est ça, oui, voilà. C'est une ONG qui parle du plaisir féminin, ça s'appelle. Enfin, c'est une association d'utilité publique où j'interroge des femmes du monde entier qui parle de leur rapport au plaisir, à l'orgasme.
Vous en interprétez
beaucoup. Ça existe, le plaisir et l'orgasme.
J'y vais tout apprendre, Léa.
Alors, ça donne quoi une femme belge qui parle de sexe?
Ah ben alors, attends, on rentre direct dans le direct du sujet. Hein. C'est cache investigation dans ta charte. Hein. moi, je vais vous dire, Madame Ourmanoff, en ce qui me concerne, j'ai l'impression vraiment que le sexe, c'est un peu comme le football. Et là, je pense que le public et les dames et les messieurs vont être d'accord. Hein. On est d'accord, au football, hein, c'est pas la durée du match qui fait la qualité de l'action. Hein. Moi, je vais vous dire, hein, un bon but bien mis dans la première période, tout le monde est content, on va avoir une lèvre. Hein.
Et les italiennes, ça donne quoi?
Ah, fare l'amore, ma questa è la cosa la più importante della mia vita, perché vraiment j'ai l'impressione che sono fatta per l'amore, ma attenzione, je ne parle pas des sentimenti, je parle vraiment perché sono molto corporale, il mio corpo è come il Vesuvio, il vulcano, anche se rencontro un uomo, si ha un po' di elettricità, qualche cosa, arrête de me regarder comme ça dans le pubblico, è pericoloso sporgersi, no, j'ai l'impressione che quando vois un uomo, s'il mi piace, che mes jambes si transforment un po' come la piste dall'aeroporto, avec le petite lumière che indica la direzione. Ma attenzione, je ne suis pas non plus les. Je ne suis pas, pardon, je ne suis pas. Évidemment que je suis. Hein. Sono italiana, c'est quand même nous qui avons inventé les gelati.
On vous conseille d'aller voir ça à La Cigale, c'est le 29 et 30 mars. Il y a une tournée dans toute la France, 2 mars Saint-Amand-les-Eaux, 8 mars Gland, en Suisse.
Gland, ouais, c'est ma date préférée de toute l'année.
C'est vrai, 13 mars, une ville qui s'appelle Gland.
Ouais, 13 mars, Aulnay-sous-Bois, Lisme, Mogio, Nantes, Bastogne, Belfort, Erstein,
Ausbergen,
ça c'est en Alsace, Tigéry, Rueil, Malmaison, Nancy, Bailly-Romainvilliers, Plougastel et Toulon.
Et Avignon cet été.
Avignon.
Ah, ouais.
Comment vous avez travaillé tous ces accents qu'il y a dans votre spectacle?
J'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup travaillé tout ça en fait. C'est assez lié à l'improvisation, le côté justement arriver à entendre, à observer. Enfin moi j'observe beaucoup ce qui se passe. Je crée des personnages un peu hybrides dans mes spectacles, qui sont un peu des personnages un peu comme les animaux fantastiques. Je prends un peu d'un, un peu de l'autre et puis je crée quelque chose. J'ai une prof de SVT par exemple qui est une vieille coco 68arde.
Elle parle comment?
Alors
elle parle comme ça, elle s'appelle Berthe Mollard et elle donne des cours de SVT, sciences et vie de la terre, certes, mais surtout sciences et vie de la teub. Voilà. Et donc elle parle aux enfants et elle leur explique des classes de 6e.
Et vous faites toujours le sketch de l'épilation ?
Ah, je le fais de temps en temps en rappel. Ouais, je le fais de
ça,
temps en temps.
Ça, c'est un sketch qui a un succès.
Ah, mais ouais, c'est.
Comment ça... elle parle, celle-là ?
Alors, elle parle comme ça, c'est une femme du Sud, et elle vient se faire, faire le tour du périph, quoi, vraiment. C'est-à-dire la totale, les voit mal, voilà, le brésilien, mais le brésilien du Sud, hein, la déforestation, la crasse amazonienne, quoi, voilà.
Ça, c'est un sketch, chaque fois que je l'ai vu en public dans les festivals, c'est un succès.
Ah, c'est incroyable, ça m'a un peu dépassé, en fait. Ouais, y a même, le mieux que j'ai eu, c'est une dame qui un jour me dit à la fin d'un spectacle, le sketch de l'épilation, vous le faites, mais quasiment aussi bien que la fille qui l'a fait à Montreux.
Oh là là. Et c'était vous la fille ?
C'était moi, oui, c'était moi.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Antonia de Rhindinger qui est venue nous parler de son spectacle Moi Je, qui sera le 29 et 30 mars à La Cigale. Et puis une grande tournée en Suisse, en France aussi bien sûr, certainement les eaux, Gland, Aulnay-sous-Bois, Lys, Mogio, Nantes, Bastogne, Belfort, Erstein, Orchestre-Jordan, Tilbury, Royal Malmaison, Nancy, Bali, Romainvilliers, Plougastel, Toulon. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Alain Landau, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca et notre invité Antonia de Rhindinger. Ça y est, j'arrive à le dire.
Oui, c'est bien.
Et Jérémy Lorca a une déclaration d'amour à vous faire, Antonia de Rhindinger.
Ah, mais j'attends ça depuis tellement longtemps, Jérémy. Ah,
bah moi aussi. Antonia, moi, je suis très heureux de vous revoir ici. J'étais venu au tout début de ce spectacle quand vous étiez au feu de la rampe à l'époque. Et je me souviens, il faisait chaud, j'avais beaucoup ri. Et c'est vrai que souvent, j'ai repensé à vous. À vous qui êtes brillante, qui faites si bien les accents et vous qui faites rire tellement de gens. Et je sais pas ce qui m'a pris, c'est pas dans mes habitudes, mais là, je me suis dit, Antonia. Sauf que je sais pas draguer une fille. Donc j'ai eu envie de vous chanter une chanson. J'espère que vos tympans sont bien entraînés.
Tout va bien, je suis okay. Prête.
Je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage. Bon alors là par contre je promets rien. En savourant chaque seconde, mon corps engourdi s'enflamme. Et là vraiment ça monte trop haut dans la chanson. Donc on va passer au refrain que j'ai personnalisé pour vous, Antonia. Mais je suis fan et quand on est fan, ces choses-là ne se font pas. Merci, merci beaucoup. Quel triomphe, rester assis, ça me gêne. Alors, je voulais vous chanter Ah, si j'étais un homme, parce que c'est vrai que pour nous, les mecs, quand on voit une fille avec une grosse paire de ciseaux sur une affiche, hein, on peut flipper. Quand on voit le spectacle, pas du tout. Et c'est ça que je trouve génial, parce que vous êtes féministe et justement, vous moquez aussi bien des hommes que des femmes. Et après tout, c'est ça, un des principes du féminisme, hein, c'est la parité. Alors, évidemment, comme dans chaque mouvement, il y a des extrêmes. Moi, ma meilleure amie est féministe et il n'y a pas longtemps, je l'ai sentie en voie de radicalisation quand même. Hein. Elle était très, très énervée contre les hommes, on part en week-end à Minorque et dans l'avion, elle lit un bouquin. Et là, elle me dit « Ah, mais je crois qu'ils ont raison, la galanterie, c'est un principe machiste. Si un mec tient la porte à une nana, c'est qu'il a des arrière-pensées. » Et je lui mets pas du tout, moi je tiens toujours la porte aux femmes, j'ai pas envie de coucher avec elle. Elle me dit « Ah, mais toi, ça n'a rien à voir, et pourquoi tu fais ça ? Tu vois qu'on est trop fragile pour ouvrir une porte nous-mêmes. » Oh là là, elle m'a cassé les couilles. 2h30 de vol, on arrive à l'aéroport, elle me dit « Tu m'aides pour les valises ?» Je lui dis « Bah non, girl power. » Alors, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, parce que moi, c'est la première fois que je partais 4 jours, comme ça, 24-24 avec une femme, et tous mes potes me disent toujours « Quand je m'engueule avec ma petite amie, il y a une phrase magique pour que ça s'arrête. » Je lui dis « Ma chérie, tu as raison. » Alors, je sais pas si votre mari fait ça.
Mais de toute façon, j'ai raison. Donc.
mais c'est ça. Et moi, je crois pas qu'il faille vous mentir. En fait, je pense juste qu'il faut vous rassurer. Sur la plage, elle doutait d'elle. Elle me disait « Regarde cette fille du bas du corps. Elle est plus mince que moi ou pas ?» Mais elle a 8 ans. Vous êtes attendrissante, les filles. C'est ce que j'ai aimé dans votre spectacle, Antonia. C'est que vous êtes tendre avec vos personnages et que vous réconciliez les hommes et les femmes. Vous parlez d'ailleurs de l'orgasme féminin. Et pareil, on croit qu'il y a que des femmes qui simulent. Mais non, nous, les hommes aussi, on peut simuler. Bah oui, c'est simple. En plein acte, tu lâches un petit « Oh, oh, ouh, oh, oh. » Oh,
c'est très gênant ce que tu fais quand même.
Je le fais bien.
Du coup, j'ai des doutes sur ce qui se passe chez moi là.
Ben voilà, c'est l'habitude. Quand tu fais ça, la personne croit que t'as joui, pas du tout. Tu fais un break, t'as un point de côté. Et oui, mais je sens que je vais un petit peu loin dans ma chronique parce que je suis fan. Et quand on est fan, bah, ces choses-là ne se font pas. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre spectacle parce que c'est vraiment, mais vraiment un super spectacle.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.
Antonia de Rhindinger, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Donc, vous avez envie de faire du cinéma, ça vous l'avez dit.
Ouais.
Du théâtre aussi, il y a eu l'expérience de Trois hommes, un couffin qui était une très belle expérience.
Oui, c'était super. Vraiment, travailler avec Colline Serrault, puis avec les trois garçons, là, Alex Vizorek, Ben et Bruno Sanchez, c'était très chouette. Oui, du théâtre, pourquoi pas. Voilà, je suis assez open, en fait, à l'idée qu'on propose.
On vous propose des pièces
nouvelles.
De théâtre ?
On m'en propose de temps en temps, ouais. Bon, après, pour l'instant, il n'y a rien qui a vraiment retenu mon attention, mais on m'en propose.
plus que du cinéma.
Oui, et puis la télévision aussi, vous aimeriez ?
Je pense que la télévision, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Enfin, moi, l'idée de me retrouver sur des plateaux de talk show, des trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas.
Non, mais je parlais de faire des téléfilms.
Ah oui, bien sûr, oui, je fais régulièrement des castings où je passe je joue souvent, on me demande souvent des rôles de flic,
ouais.
Ou alors des rôles d'assistante d'avocate, ou alors des rôles d'avocate, des choses comme ça.
Et on vous prend ?
Non.
C'est-à-dire, vous faites le casting, on ne vous prend pas ?
Bon, pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, mais bon, si, on m'a prise une ou deux fois sur des petites choses. Ouais, voilà, mais bon, encore une fois, c'est encore à l'état.
Et c'est surtout sur scène que vous épanouissez le plus, Antonia ?
Bah, moi, sur scène, je m'éclate parce que j'adore le rapport avec le public. Et puis, encore une fois, moi, je viens de l'impro. Donc, je suis assez ouverte à l'idée qu'il puisse y avoir des petits incidents dans la salle. J'adapte un peu le spectacle à chaque salle dans laquelle je vais jouer.
Chaque soir est différent.
Ouais, voilà. Puis, je mets vraiment des petites touches géographiques, gastronomiques aux endroits dans lesquels je me trouve. J'aime bien l'idée de faire des spectacles un peu dédiés au public dans lequel face auquel
là,
je me produis.
La cigale, c'est une première pour vous ?
Ouais. C'est pour moi, c'est un gros événement, la cigale. Ouais.
Vous avez peur ?
Carrément, ouais.
C'est vrai ?
Ouais, je suis très traqueuse, ouais. D'une manière générale, je suis assez traqueuse pour les gros événements
vous avez 20 ans de scène là maintenant derrière vous.
Ouais, mais bon, je pense qu'on reste toujours assez fragile hein, face à ce genre d'événement.
Comment vous allez vous préparer pour la cigale ?
Eh ben, je pense que je vais faire des burpees avant.
Des burpees, c'est quoi
des burpees ?
Les burpees ? Attends, personne ne sait ce que c'est les burpees ? C'est le truc où tu te mets au sol, tu fais d'abord une pompe, puis ensuite tu te lèves, tu fais un jumping jack, un truc comme ça, clac, et puis tu reviens au sol et tu refais ça une cinquantaine de fois.
50 fois ?
Normalement, tu es censé avoir un ventre plat et tout. Bon, ça fait à peu près 6 mois que j'en ai pas fait, donc je vais m'y remettre demain.
Je connaissais pas, ouais, mais ça épuise avant d'entrer
sur scène. Il y a des gens qui meurent hein, en faisant ça.
Et ben Antonia de Rénager, on ira tous vous voir à la Cigale 29 et 30 mars. Merci beaucoup d'être
passé. Merci beaucoup à nous.
On se retrouve dans un instant et c'est le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. 11h, 12h30. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bisigny, Léa Lando, Christophe Lévesque, Jérémy Lorca.
Yes.
Et notre invité d'aujourd'hui, dans la grande famille En Marche, où voudrait le geek, petit génie du numérique du haut de ses 33 ans. Il est à la tête de plusieurs startups de clic en clic. Aujourd'hui, c'est en politique qu'il s'illustre aux côtés d'Emmanuel Macron après avoir été aux côtés de François Hollande. Ces derniers temps, il a dû faire face à une recrudescence de cyberattaques. Sa vie est un mélange entre Matrix et Star Wars. Cette vie, c'est celle d'un secrétaire d'État en charge du numérique, car c'est Mounir Majoubi qui est avec nous ce matin sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci de m'accueillir.
Alors je précise que vous êtes le seul des ministres qui veut bien venir dans cette émission.
Ah, je vous ai déjà fait une confidence. Une de mes collègues sera très heureuse de venir et de vous rencontrer. Elle me l'a confié juste avant que je vienne.
Ben, on va l'inviter, mais tous les autres, ils ne veulent pas venir. Ils ont peur de nous.
Mais non, ils savent l'exigence de cette émission. Et ils
ça doit être ça. Ça fait quoi, Mounir Majoubi, d'être le plus connecté dans un gouvernement qu'on qualifie souvent de déconnecté ? Parce qu'en ce moment, c'est un gouvernement qui aimerait avoir plus de likes et de pouces bleus, non ?
Est-ce que vous me permettrez de ne pas accepter votre qualification de gouvernement pas très connecté ? En tout cas, moi, j'essaye d'être connecté dans le sens numérique comme dans le sens humain, avec le maximum de Français. Je pense que c'est très important. Je l'ai écrit il y a quelques mois. Je pense qu'il faut qu'on s'élève à la hauteur des Français, que notre façon d'être dans le quotidien soit plus proche, qu'on fasse plus ensemble. Le grand débat, c'est une façon de changer notre façon de faire de la politique. Mais si on ne se reconnecte pas profondément à ce qui fait le quotidien des Français, on n'est pas là pour durer.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait au gouvernement pour qu'il retrouve la 4G ?
Le très haut débit, la fibre optique de l'engagement citoyen. Ben, il faut qu'on soit plus à l'écoute. Véritablement, être à l'écoute, ce n'est pas juste une posture. C'est décider, construire les idées, avancer en permanence avec les Français.
Alors vous avez sympathisé avec un gilet jaune, vous ?
Avec plusieurs.
Bah avec, non, mais lors d'un Facebook Live, lequel c'est ?
Non, je n'ai pas sympathisé avec lui. On s'est rencontrés, on a fait une émission télé un peu tendue ensemble.
C'était qui, lequel ?
C'était Monsieur Nicole.
Voilà. Ouais.
Avec lequel on ne partage pas beaucoup d'idées. Donc ce n'est pas de la sympathie qu'on a là.
Vous avez réussi
c'est
à
du respect.
Vous avez réussi à dialoguer quand même.
On a réussi à dialoguer et à se respecter dans l'échange.
Et vous dites que vous, dans les gilets jaunes, Mounir Majoubi, il y a un truc qui vous a touché et qui a fait écho en vous, c'est le sentiment d'injustice, parce que la colère sociale, parce que vous l'avez ressenti à un moment.
Oui, l'injustice, et j'avais même parlé du sentiment d'humiliation, et même d'humiliation parfois face au langage, face au pouvoir, que tous ceux qui grandissent loin des centres de décision, dans la ruralité, dans les quartiers populaires ou dans une famille pauvre, ont tous ressenti un
vous
moment.
Vous l'avez eu un moment, vous étiez hyper diplômé. Et pas moyen de trouver un stage.
Vous connaissez toute ma vie.
Mais j'ai su dessus depuis 6h du matin, mon ami.
Enquêté. C'est pour ça que les autres ne veulent pas venir. Elle enquête.
Vous avez fait une maîtrise, enfin droit, master, Sciences Po, et en 2008. Impossible de trouver un stage. Vous gagnez le concours d'éloquence de Sciences Po. Il y a le DRH de L'Oréal qui vous repère. Et la première équipe où ils veulent vous mettre, ils ne veulent pas de vous.
C'est ça. Donc vous savez vraiment tous les détails.
Et la deuxième équipe, ils disent, bon, vous n'y connaissez rien, vous allez comprendre vite.
C'est ce qu'il dit, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui m'a donné beaucoup confiance en moi professionnellement. Parce que si vous avez 4 personnes d'affilée qui vous disent, vous n'êtes vraiment pas fait pour nous rejoindre, au bout d'un moment, ça vous détruit un petit peu.
Alors, il paraît que Mounir Majoubi, quand vos collègues ministres ont un souci informatique, ils vous appellent, même le week-end ?
J'ai déjà débloqué des téléphones.
Ah oui ?
Mais oui, mais en même temps, vous savez, j'ai fait ça pendant 8 ans.
Vous avez été 8 ans, à partir de 15 ans, vous avez bossé à Club Internet, à la Hotline.
Et donc j'ai réparé des... Est-ce que dans le public, il y a des gens qui étaient à Club Internet à un moment ?
Moi. Non. J'ai encore une adresse Club Internet, j'ai honte.
Ça n'existe plus depuis longtemps, mais ça, je vous sais. Avez gardé l'adresse.
Mais j'ai... Parce qu'en fait, au moment où ils m'ont proposé de changer pour SFR, j'ai raté le moment. Et après...
Il m'est arrivé la même chose, j'ai Club Internet aussi.
Voilà. Et moi, j'avais peur qu'après, je perde tous mes messages ou...
Oh, il serait transféré, mais si vous voulez, je peux vous aider à faire le transfert de votre boîte.
Hier, je me suis énervée. Enfin, ça, c'est pas un problème, mais je me suis désabonnée de SFR. Oui. Parce que, enfin, c'est pas un problème, je vous le dis quand même chez moi. Il y a que la fibre optique Orange, d'accord ? Ouais. Donc j'ai été à la boutique, j'ai ramené mon machin. Après, j'ai dû téléphoner au service client, enfin bref. Et après. Bon, et je suis
inquiète. Il y a une chute, ça tombe ça ou pas ?
C'est prenant, hein ?
Non, mais
On est suspendu à télé.
Il y a Spielberg qui veut racheter les droits pour faire un film.
Et en fait, tu voulais appeler qui, finalement ?
Non, mon souci, c'est que j'ai plein de mails stockés de Club Internet. Club Internet, j'ai beaucoup d'adresses Club Internet, et je ne veux pas les perdre.
Mais il vient de te dire qu'il peut t'aider à te les transférer.
Non, je leur ai posé la question. D'accord. Et ils m'ont dit...
Est-ce qu'ils sont ministres ?
Non, la femme, elle m'a dit... Il faut que j'aille tous les jours, tous les 15 jours, l'activer mon adresse, sinon je la perds et je perds tout. Toutes mes données. Si ?
Tous ces mails de 1992.
La première chose, c'est qu'on peut faire un export de tous les messages pour avoir une sauvegarde. Comme ça, pour la vie entière, vous les gardez quelque part. Ah. Ça, c'est important.
Mais ça, je ne sais pas le faire.
Deux, après l'export, on peut le réimporter dans la nouvelle adresse.
D'accord.
Et après, on peut reconfigurer le serveur pour même garder même l'adresse Club Internet sur votre nouveau serveur.
Que ça arrive direct sur mon nouveau truc. Mais je ne sais pas faire tout ça.
Mounir, j'oublie
mais
Mounir.
Mais non, mais il a un travail. Il est occupé.
J'ai un travail en ce moment.
Ouais. Qui ne devrait pas durer longtemps.
Mais oui, mais enfin, c'est pas grave, mais ça m'a fait souci quand ils m'ont dit si j'y vais pas tous les 15 jours, parce que forcément, il y en a une, j'y vais pas tous les 15 jours d'adresse.
Mais moi, je sais le faire, moi, Anne, si vous voulez.
C'est vrai ?
Oui.
Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi tu veux garder des messages de 92 ?
Ah, il y a des trucs sentimentaux !
Non, pas forcément, mais des fois, des trucs de boulot, dans le flot d'emails, il y a quand même des fois des trucs, c'est bien de les garder.
Son contrat des blancs manteaux en 1986.
Ah, t'avais eu
c'est
un contrat ?
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, c'est ça qu'on dit ?
C'est comme ça qu'on dit.
Auprès de Bruno Le Maire.
Et de Gérald Darmanin.
Excusez-moi. Ne bougez pas, on revient.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Bizzini, Léa Londo, Christophe Lévesque, Jérémy Lorquet, notre invité Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. J'ai regardé tout ce que vous devez faire dans votre... Vous avez beaucoup de travail. Hein.
Oui.
Vous devez simplifier le numérique pour tous les Français.
C'est pas mal comme mission.
C'est énorme. Mais
rendre les services publics plus simples, s'assurer que tout le monde a un réseau 4G de qualité, que tout le monde peut avoir accès au très haut débit, s'assurer que ceux qui ne savent pas utiliser puissent apprendre à utiliser.
Vous êtes aperçu qu'il y avait une vraie fracture numérique, notamment à cause de remontées d'assistantes sociales, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont un téléphone portable et vous expliquez que beaucoup de gens sont bloqués sur le web. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire des démarches en ligne, ils ne savent pas envoyer des CV en ligne et que ça, c'est un vrai souci. Ça.
C'est un très gros souci. C'est quasiment un Français sur cinq qui sait pas utiliser le numérique. C'est même quand on lui donne un ordinateur, quand il a accès à un ordinateur dans sa famille ou un téléphone portable connecté à Internet, c'est pas faire une démarche avec les services publics.
C'est les seniors très souvent.
Non, pas seulement.
C'est
justement.
Beaucoup de seniors, mais c'est beaucoup de jeunes aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la première inscription à Pôle emploi, la première inscription de recherche d'emploi simple pour envoyer son CV, il y a beaucoup de jeunes qui découvrent pour la première fois Word pour faire un CV, qui découvrent pour la première fois le fait de rédiger une lettre. Et donc, ils savent très bien utiliser l'écran, le clavier.
Souvent, au Pôle emploi, il y a la meuf qui bosse au Pôle emploi, elle découvre aussi. Hein, parce que...
On n'a que des professionnels qui sont formés.
Moi, au Pôle emploi, je m'expliquais comment ça marchait. Parce que ça n'avait pas toujours...
Et dans le système scolaire, pourquoi ne pas ajouter un cours
Ah, et bien, vous avez raison de le rappeler. C'est pour ça qu'on a démarré par le lycée. Aujourd'hui, vous savez qu'à partir de l'année prochaine, à la rentrée de septembre, tous les élèves de seconde, ils vont avoir une nouvelle matière de 2 heures par semaine qui va faire qu'il n'y a plus aucun élève qui sortira du lycée sans avoir passé 2 heures à découvrir l'informatique et les sciences, mais à un niveau assez avancé.
Au moins faire un CV en Word et s'inscrire à Pôle emploi.
Et faire un peu de code et comprendre comment ça marche un serveur, comment ça fonctionne les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, les algorithmes. C'est-à-dire qu'on a toute une génération qui arrive qui saura. Mais il faut se dire une chose, il reste tous ceux qui sont déjà là.
Comment on fait pour les aider?
Ils sont foutus.
Non, surtout pas, jamais foutus.
Votre mission, donc, c'est de préparer et coordonner la politique de transformation numérique de l'État. Mais en fait, ça consiste en quoi? Expliquer aux sénateurs que non, on ne peut pas tweeter d'un Minitel ou pourtant...
Vous êtes dur, on a des sénateurs très connectés.
C'est vrai.
Un des sujets avec les services publics numériques, c'est 1. Rendre disponible en ligne tous les services publics. Rendre disponible, ça ne veut pas dire imposer. Mais pour que les 80% de gens pour qui ça marche, que ce soit facile pour eux. Par exemple, la carte grise. Plusieurs milliers par an qui ne fonctionnent pas et qui sont très lourdes. Mais c'est plusieurs millions par an qui fonctionnent très bien. Donc c'est plusieurs millions de demi-journées qui n'ont pas été posées, de gens qui n'ont pas eu à prendre leur matinée ou leur après-midi à la préfecture, comme on a toujours fait les 20 dernières années. Donc pour le million de fois où ça a marché, c'est formidable. Et moi, mon travail, c'est de m'occuper de quelques milliers de fois où ça n'a pas marché. Et où là, pour eux, on a remis en place des centres d'appel, remis en place un accueil physique, parce qu'effectivement, pendant 1 an et demi, 2 ans, il n'y avait plus d'accueil physique, pas de centre d'appel. Et si vous étiez tombé dans les 1000 par mois qui ne marchent pas, bah, honnêtement, vous étiez face
alors,
à un mur.
Alors, il paraît qu'on a une immense cyberattaque, mais ça en est où, ça?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'Internet mondial est structuré de façon complètement décentralisée. Donc, quand on tape une adresse pour savoir où est le serveur, on a créé un annuaire géant qui est piloté par l'ICANN. Et cet annuaire géant, c'est lui qui dit, quand je tape Roumanov.fr, où est le serveur
Club
qui
Internet.
Permet...
3615 Roumanov.
Et il se trouve qu'il y a des pirates qui, depuis quelques mois, ont trouvé une astuce pour s'interposer entre l'annuaire central d'Internet et la demande que vous faites. Ce qui fait qu'au lieu d'aller vraiment sur le serveur où vous auriez dû aller... il se fait passer pour un autre serveur. Ce qui fait qu'il lui ressemble, il a la même adresse, la même gueule, et vous, vous y allez en toute confiance, et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, vous êtes chez quelqu'un d'autre et qui est en train de tout aspirer sur vous. Et donc, ce qui est arrivé, ce n'est pas une attaque, c'est des centaines d'attaques comme celle-là.
Mythique.fr. Quelle angoisse.
Et donc, l'association mondiale qui gère cet annuaire a dit... on sonne le warning, on a reçu plusieurs dizaines de rapports d'attaques ces dernières semaines. Il faut que ceux qui éditent ces grands services protègent leurs services d'adresse. Il se trouve qu'aujourd'hui, les grands services de l'État, les grands services des banques sont très protégés sur ces sujets-là, mais pas toutes les entreprises et pas tous les sites internet sur lesquels on va. La menace, elle n'a jamais été aussi importante. Et l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de pousser toutes les entreprises à augmenter leur niveau de sécurité, parfois malgré elles. J'ai défendu une loi récemment au Parlement qui est une application d'une loi européenne où on les oblige et on leur fait même des sanctions si elles ne se protègent pas. Parce qu'on considère que certaines entreprises, si elles se font pirater, c'est très grave pour elles, mais c'est très très grave pour le pays.
Mais là, par exemple, il va se passer quoi là? Parce que quand ils ont dit cyberattaque d'ampleur, moi j'ai peur. Qu'est-ce que... non, mais...
ah bah là, vos comptes ils sont à sec là.
Comment?
Vos comptes ils sont à sec là, il n'y a plus rien.
Ce qui est bien, c'est que grâce à ce message... ça a permis aux gens d'en parler, ça a fait prendre conscience dans beaucoup d'entreprises qu'ils n'avaient pas forcément traité ce sujet-là et que donc aujourd'hui, on va augmenter
le niveau de sécurité
de toutes les entreprises. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas l'État qui peut le faire parce que Internet c'est décentralisé.
Puis des fois, il y a des pièges. Moi, j'ai reçu un truc. Je pense que c'est un piège. Anne Romanoff@impots.fr.
Oui, ils te donnent de l'argent, mais bien sûr, mais 450 euros. J'étais comme un ouf. J'allais m'acheter des fringues.
Et vous avez donné votre numéro de carte bleue et tout.
Bon, je sais pas.
Oh, le naïf.
Là, celui que j'ai reçu hier, il était très bien imité.
Moi, j'appelle ça. J'avais fait un texte qui s'appelle Pixel Perfect Emails pour New York Times. On a fait ça. Pixel Perfect, ça veut dire les mails qu'ils font maintenant, ces pirates, ils sont aussi beaux, parfois ils sont même plus beaux que ceux que nous faisons en tant qu'administration.
Par contre, des fois, il y a des fautes d'orthographe. Et moi, ça, je le vois. Ben et je me dis,
et là, vous l'avez
pirate.
Pirate.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Vizini, Lalonde, Christophe Lévesque, Jérémy Lorca et notre invité, le secrétaire d'État au numérique, monsieur Mounir Majoubi.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Lalonde, Christophe Lévesque, Jérémy Lorca et notre invité Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Quand vous êtes né, Mounir Majoubi, Internet n'existait pas, il y avait que le Minitel. Et donc, quand on vous demandait ce que vous vouliez faire comme métier quand vous étiez petit, vous répondiez quoi ?
La semaine dernière, j'étais au Palais de la Découverte pour remettre le prix aux jeunes inventeurs Sciences et Vie Junior. Et moi, j'avais gagné ce prix-là
quand j'avais 13 ans.
Et ils ont sorti l'article. Et à la fin de l'article, je ne me souvenais pas, il m'a demandé quel métier vous vouliez faire plus tard. Je lui ai dit prof de maths ou informaticien. Vous avez vu ? Donc, quand même,
d'ailleurs,
déjà
avec l'argent que vous aviez gagné à l'époque, vous aviez acheté votre premier ordinateur.
Ah, vous savez tout, vous
que
aussi.
Vous avez bidouillé, que vous avez bidouillé. Et vous dites que maintenant, on ne peut plus bidouiller les ordinateurs.
Bah, maintenant, vous ne pouvez plus acheter en pièces détachées. Enfin, vous pouvez encore un peu le faire, mais les machines sont... Maintenant, on veut tous des machines le plus plat possible, le plus petit possible. Avant, à mon époque, on avait tous des grosses tours avec une carte mère. Et le week-end, on allait à Rue Montgallet acheter une nouvelle carte graphique, une nouvelle carte son, un nouveau modem.
Vous étiez un vrai geek, quoi.
Bah ouais, j'aimais beaucoup ça.
Votre père était dans le bâtiment, Mounir Majoubi, votre mère femme de chambre. D'avoir un fils au gouvernement aujourd'hui, ça leur fait quoi ?
Bah, j'espère et je pense qu'ils sont très fiers. Après, c'est compliqué, on va se dire les choses, c'est pas simple. On croit que c'est hyper, que c'est formidable l'ascension sociale. Quand vous êtes, toute votre famille est encore au Maroc, extrêmement pauvre, vous êtes arrivé dans un pays et grâce à l'école, votre fils il réussit, il devient ministre, c'est pas simple.
Parce que tout le monde leur demande des choses.
Non, mais tout le monde pose des questions, les gens en parlent. Honnêtement, je circule dans un monde, là je suis avec vous aujourd'hui, qui est complètement, qui est pas saisissable dans le quotidien de mes parents. Donc c'est un truc bizarre. Quand je reçois des menaces publiques, moi, ça y est, je suis dépassé, je dépasse tout ça,
ça
je
vous touche
tranquillement,
plus.
Ça me touche pas. Ma mère, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me menace de mort sur Twitter, elle m'appelle en larmes. Elle me dit, celui-là, il faut l'attraper, etc. Alors que moi, j'en suis à la centième de la journée, je m'en fous, quoi.
Donc votre mère, elle suit sur Twitter, elle tape votre nom pour savoir.
Elle tape mon nom toutes les heures, j'ai l'impression.
Et pourquoi on
c'est super mignon. C'est super mignon, en même temps.
Bah, évidemment. Et quand il y a des débats politiques un peu durs, et c'est pas facile. C'est dans ma famille, il n'y a personne qui a ouvert sa gueule pour prendre position politiquement, etc. C'est-à-dire que, quand même, la majorité des Français, et c'est pour ça que je dis que j'avais été très sensible aux Gilets jaunes, notamment dans les milieux populaires, on se tait, quoi. Et donc, quand il y a un des enfants qui décide de parler fort, et on est très fiers, mais on a très peur.
Mais vous ne trouvez pas qu'il n'y a que sur Twitter qu'il y a des haters comme ça ? C'est-à-dire, pourquoi on ne fait pas quelque chose pour limiter toutes ces menaces de mort, ces messages ?
Bon, parce que franchement, maintenant, on demande à YouTube de retirer une vidéo, c'est fait dans la journée.
Ouais.
Twitter, vous signalez des messages haineux, il ne se passe rien, en fait.
Alors aujourd'hui, vous avez vu, on a annoncé...
Faites quelque chose !
On a annoncé avec Marlène Schiappa et le président de la République un plan d'action contre les contenus haineux en ligne qui font deux choses. Un... Il faut qu'on identifie plus rapidement ceux qui font ça de façon anonyme.
Ouais.
Donc aujourd'hui, quand on demande à un fournisseur d'accès français, il répond en quelques minutes. Quand on demande à Twitter, il met quelques semaines à quelques mois et parfois il ne répond pas.
Ah ouais, en disant, c'est ça.
Non, lui, je n'ai pas envie de vous dire si je sais quelque chose sur lui parce que je considère que ce n'est pas si antisémite que ça, son message. Donc ça, ce n'est plus possible. Deux, il faut que les plateformes elles aient une responsabilité pour supprimer le plus vite possible. Bilal Hassani, là ça a été un exemple majeur, ce garçon a jamais autant attiré autant d'amour dans ce pays avec un soutien massif de très nombreux Français, mais autant de haine aussi en même temps avec des messages ignobles. Moi j'utilise une application qui s'appelle Bodyguard, c'est lui qui me l'a conseillé, c'est gratuit, c'était développé par un jeune Français et qui me filtre une partie des messages que je reçois sur Twitter. Et cette appli, elle est horrible parce qu'elle garde quand même un historique de tous les messages qu'elle a filtrés.
Et qui vous filtre, ah, c'est-à-dire que...
Ça fait un condensé.
Mais c'est horrible, c'est le condensé.
Tu reçois pas des mauvais messages, en fait.
Le best-of de la haine.
Non, mais vous ne recevez pas, vous, les messages haineux ou, en fait, non. Dès qu'ils sont postés, ils ne sont pas diffusés?
Non, non, ça va directement chez sa mère.
Non, bah, c'est pas moi. On peut pas supprimer les messages des autres sur Twitter. Ouais. Donc c'est juste que moi, je ne les vois pas. Ah, ça me permet de ne pas être déprimé toute la journée. Mais par contre, quand en fin de journée, je veux aller regarder parce qu'il y a la curiosité, même si sur l'appli, il y a un écran qui vous fait « Êtes-vous vraiment sûr de vouloir voir ces messages ?» Ça ne sert à rien de les lire. Ça va vous atteindre en les lisant, etc.
Vous êtes encore atteint, Mounir Majoubi, par les attaques?
Bien sûr. Écoutez, j'en parle beaucoup avec Marlène Schiappa, j'en parle beaucoup avec Laetitia Avia. Chacun, pour des raisons différentes, on est cible d'insultes massives sur les réseaux sociaux. En fait, on est hyper béton, ça va bien, on est dur, on est des ministres, on est solide.
Mais en vrai,
au bout de 500 messages où on vous maltraite, il y a un truc qui s'abîme. Ah, et donc, normal. C'est pour ça qu'il faut réussir à ne pas le lire. Bilal Hassani dit, je me force à ne pas regarder ces messages parce que sinon, en fait, je ne peux pas être l'artiste que je suis.
Et comment vous expliquez, Mounir Majoubi, que vous attisez autant de haine, vous?
Non, membre du gouvernement, garçon, homosexuel, arabe, ça fait pas mal de choses pour les gens qui détestent les gens, les haters.
Ouais.
Et donc voilà, c'est peut-être pour ça.
C'est tout.
C'est tout. Je suis une star dans l'extrême droite.
Ouais.
J'ai des vidéos de Dieudonné,
insultes
de tout le monde. J'ai eu plusieurs articles sur les sites fachos. Donc ouais, mais c'est ça fait partie du job. Là, j'ai dit des noms, maman, elle va regarder pour y se retrouver.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Jean-Philippe Bizini, Lalando, Christophe Lévesque, Jérémy Lorca et notre invité, le secrétaire d'État au numérique, monsieur Mounir Majoubi.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Bizini, Lalando, Christophe Lévesque, Jérémy Lorca et notre invité, Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique. Mounir Majoubi, Jean-Philippe Bizini a des choses à vous dire.
Oui, parce que la dernière fois que vous êtes venu nous voir dans l'émission, vous avez été tellement convaincant que depuis, grâce à vous, chez moi, on a installé du Wi-Fi partout. On a mis la fibre, du Bluetooth, ça marche très fort. Bon, depuis, à cause des ondes, les enfants sont devenus chauves. Ma femme a perdu ses dents, mais on a du débit Internet, du feu de Dieu, ça marche. Et alors chez nous, tous les objets sont connectés, ça y est, tous. Dans le salon, j'ai installé une webcam pour surveiller mes enfants quand je suis pas là. Ma fille, elle a ramené son petit copain à la maison. Il a commencé à lui faire un striptease. Il a balancé son t-shirt dans la cheminée et son slip sur la webcam. On n'a rien vu du tout, du coup. On a une télé connectée, c'est-à-dire qu'en fonction de nos goûts, elle nous propose des programmes. C'est super, hein. On est parti en vacances, mes beaux-parents sont restés à la maison pour garder les enfants. Ma belle-mère qui m'appelle, je comprends pas, à chaque fois que je veux voir un film, il me propose un porno. Bon. On a un four connecté aussi, il y a une application, tu tapes tout ce qui te reste dans ton frigo et lui te propose un plat pour le soir. C'est bien ça, hein. Moi je devais faire à manger pour les gosses. Dans le frigo, il me restait une boîte de cornichons, une bouteille de vin blanc. J'ai tapé ça dans l'application, j'ai tout envoyé. Ben, en retour, ils m'ont envoyé le juge des affaires familiales. Apparemment, je risque de perdre la garde des gosses, moi. On a la tondeuse connectée. Il y a une balise GPS, elle est connectée en Wi-Fi. Normalement, elle était censée rester dans notre jardin. Ben, y a eu un bug. La tondeuse, elle a disparu. Et le chat de la voisine aussi. On a une douche connectée. Super, elle augmente la pression en fonction du niveau de l'odeur. Le petit, il rentrait du foot. On l'a envoyé à la douche. Le jet, il est parti tellement fort que le gosse, il a traversé la cloison. Heureusement que de l'autre côté, ils avaient installé le même système. Comme ça, ils nous l'ont renvoyé. Enfin, il a fait 2-3 allers-retours avant qu'on réussisse à le choper, le gamin. Alors, Mounir Majoubi, voilà, le numérique, c'est super, surtout quand ça marche. Merci à tous.
Il y a une chose qui est quand même assez effrayante. sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on a une conversation sur un sujet, mais allez, une heure plus tard, sur Internet, on nous propose des choses en rapport avec la conversation ou même une recherche sur Google sur ordinateur. Ça, le portable nous propose... Ouais.
On est des fichiers sur pattes, hein, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent.
Moi là j'ai une chemise qui m'appelle depuis 3 jours.
Une chemise?
Oui, je l'ai regardée il y a 3 jours sur un site de fringues. Tu vois tous les jours, achète-moi.
Ah oui, oui, mais, ouais,
mais je vais craquer.
Non. Bon, parlons de vous, Mounir Majoubi.
Ouais, voilà.
Donc vous avez grandi dans un milieu très modeste. Vous avez connu les coupures d'électricité, faute de pouvoir payer la facture. Et votre, enfin pas vous payer la facture, vos parents, mais votre parcours, c'est la preuve que tout est possible. Votre père avait transformé un 30 mètres carrés en 4 pièces.
Ouais.
Avec des cloisons.
Avec des cloisons. Mètres, ouais.
Non, mais avec des cloisons, j'ai eu la chance de grandir avec une chambre individuelle qui faisait 1m30 sur 2m30 de long. Sauf que c'était ma chambre, quoi. Et qu'on avait réussi à bricoler tout ça. Et surtout, c'était pour mes parents un aboutissement parce qu'on avait été locataires toute notre vie. Là, ils avaient été propriétaires. Ils voulaient qu'on reste dans le même arrondissement. Mes parents, ils ont immigré à Rueil-Diderot, dans le 12e, en 74. On a déménagé 6 fois à 1 km autour du croisement rue de Reuilly, boulevard Diderot. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas partir de là. C'était chez nous, ici, et c'était là qu'on resterait, même si c'était petit.
Alors, vous êtes investi auprès de Ségolène Royal. C'est vous qui avez créé la fameuse Ségosphère.
Oui.
Vous portez quel regard sur cette expérience?
C'était objectivement une des campagnes les plus innovantes de l'histoire politique française. C'était la première fois qu'on parlait de démocratie participative. C'est la première fois que les sites Internet et Internet en soi étaient un véritable objet politique. C'était la première fois...
Mais les gens se sont moqués. Enfin, il y a des gens qui ont dit « Oui, on ne peut rien faire, il faut appeler les gens de la Ségosphère ». Donc c'était vous, en fait.
Les gens se sont moqués, mais beaucoup de gens aussi regardaient avec admiration. C'était un moment d'accélération des nouveaux usages politiques. C'est, Nicolas Sarkozy, à cette époque, avait aussi été un candidat très créatif et très innovant. C'était deux candidats qui ont marqué l'histoire. L'élection de 2012 était beaucoup plus plan-plan. J'y étais aussi. C'était pas aussi créatif que 2006.
Donc après, vous avez travaillé pour François Hollande.
Ouais.
Vous êtes défoncé pour lui.
Ouais.
Et il nous a rien donné.
Oui, mais ça arrive, ça, il ne faut pas...
Non, mais ça arrive, mais vous en parlez quand même encore.
Non, j'en parle plus, c'est vous qui en reparlez.
Non, mais ça a été... Sur le coup, vous avez...
Mais sur le coup, vous savez, je suis un entrepreneur dans la vie, donc sur le coup, après la présidentielle, il ne me propose rien, et je rebondis, et j'ai une des plus belles expériences professionnelles de ma vie. Je dirige l'agence BETC à Paris pendant près de 4 ans, et où je découvre un nouveau milieu, plus créatif, plus ouvert, international, différent... Vous savez, dans la vie, il faut juste apprendre à ressaisir
Vous avez eu des échecs aussi, parce que vous avez créé une start-up de stickers muraux,
oui.
Qui a fait 600 euros de chiffre d'affaires la première année.
Voilà. Et beaucoup plus d'argent d'économies investies là-dedans.
Là, vous avez perdu toutes vos économies que vous aviez gagnées dans Club Internet. Et
exactement.
Tout ça. Vous avez tout perdu.
Tout.
Et là, vous étiez comment après que ça soit planté?
J'étais heureux. C'est dur à raconter, mais non, j'étais profondément malheureux, stressé, anxieux, parce que j'étais
vous
pas tout
seul.
Vous
aviez quel âge, là?
J'avais 21.
Ouais. Mais vous étiez allé au bout de votre projet, c'est ça qui vous rendait heureux?
J'étais allé au bout de mon projet. Par contre, j'avais mis en difficulté d'autres associés,
ouais.
D'autres gens qui m'avaient rejoint dans ce projet.
Que vous avez donné de l'argent.
Mais ils avaient quoi de spécial, ces stickers muraux?
C'était à l'époque où il n'y avait pas encore.
D'accord.
C'était innovant.
C'était un site e-commerce de stickers muraux. J'avais envie d'en acheter et j'avais vu que ça coûtait très cher. Du coup, j'ai fait venir une machine depuis la Chine. J'avais appris à la programmer moi-même. J'avais trouvé un copain qui faisait des arts graphiques, qui avait fait des super motifs. On avait fait des trucs sympas. On avait pu faire un site internet, un logo, un environnement, tout. Et on a eu quand même 600 euros de chiffre d'affaires. Ça nous a fait près d'une centaine d'expéditions, enfin une cinquantaine d'expéditions. Je me suis senti entrepreneur. Et une fois que vous l'avez fait une fois, toutes les fois d'après, c'est plus simple. Et donc, et d'ailleurs, c'est valable pour plein de choses dans la vie. Mais c'est compliqué, entrepreneur. Mais on se rend compte que c'est pas une science magique. Il faut juste l'essayer, foirer un peu, ressentir les émotions qui vont avec. Puis après, ça vient.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca et notre invité Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Landau, Christophe Alévèque, Jérémy Lorca,
yes.
Et notre invité Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Mounir Majoubi, donc ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au gouvernement? 1 an et demi?
Presque 2 ans.
Oui,
en fait.
Alors qu'est-ce que vous avez compris? Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, j'imagine.
Alors, qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que j'ai découvert ? Ce que j'ai compris et découvert et qui est très intéressant, c'est quand on est au gouvernement, quand on est au pouvoir, on est ceux qui devons à la fin décider. Là, sur la violence en ligne aujourd'hui, il y a toute une partie des associations qui disent qu'il faut absolument que ces contenus soient supprimés le plus vite possible et que les plateformes donnent les adresses de ces gens-là, que l'anonymat soit interdit. Et vous avez le même nombre d'associations de l'autre côté qui dit « Ne nous transformons pas en pays dictatorial qui empêcherait la liberté d'expression sur Internet et qui imposerait de lever l'anonymat et d'aller chercher les personnes. » Ouais, et bah, sauf que moi, je suis au pouvoir là aujourd'hui et donc on doit trouver le chemin.
Vous avez le cul entre deux chaises.
Satisfait, non, mais qui satisfait les objectifs majeurs de cela, qui est de dire on va arrêter d'avoir des victimes d'antisémitisme en ligne qui ne sont pas accompagnées et où les contenus restent là. Et en même temps, on va créer des mécanismes pour s'assurer que ce qu'on met en place là ne limite jamais la liberté d'expression. Mais c'est jamais parfait. Une partie va toujours considérer que vous n'êtes pas allé assez loin. Et une autre partie va considérer que vous n'êtes pas allé assez loin non plus. Il y a ceux qui pensent aujourd'hui qu'on n'a pas été assez sociaux. Mais dans le même temps, dans la même semaine, vous avez tous ceux qui ont dit qu'ils n'ont tenu aucune promesse sur la diminution de la dépense publique. C'est-à-dire que on nous considère trop à droite, trop à gauche. Et nous,
ah, bah ça, c'est un peu de votre faute. Vous vouliez être les deux au début. Hein, donc
Est-ce que c'était pas ça aussi le problème de base, Mounir Majoubide, qu'on peut ni à droite ni à gauche ou...
Moi, je crois pas. Je crois que le problème de base, on l'a bien compris maintenant depuis l'épisode Gilets jaunes et cet épisode du grand débat qu'on est en train de vivre tous ensemble. C'est pas droite ou gauche, c'est accessible, participatif, dans le cœur de la population, juste. Ou loin. Et la justesse et la justice va avec le fait d'être au cœur de la population. Moi, je crois qu'on s'est fait élire avec une vraie majorité. Et une fois qu'on a été élu, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a été élu, il faut absolument qu'on délivre tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et on a peut-être un peu oublié de continuer à écouter. C'est-à-dire que quand on fait une campagne, c'est magique. Une campagne, tout le monde est sur le terrain. Tous les militants sont sur le terrain, tous les futurs députés, les futurs ministres sont sur le terrain. On écoute tout le monde, on est en permanence en train de raisonner avec le peuple. À chaque fois qu'on a une idée, on la teste le lendemain au marché, etc. etc. Puis quand on est élu, on se dit, bon, bah, c'est bon, comme on a fait ça pendant l'élection, on n'a plus besoin de le faire. Et je crois que là, on est dans un moment où il faut qu'on change la façon dont ça fonctionne. Et même après l'élection, il faut qu'on continue ce système où, en permanence, tout le monde se sent inclus dans le dispositif.
Surtout, comme quand en 2002, il y a un deuxième tour tronqué et qu'au premier tour... Il a été élu, hein, je ne reviens pas là-dessus, Macron. Mais ce n'est plus les premiers tours avec le candidat qui fait 43%.
C'est vrai.
Voilà, donc on ne revient pas là-dessus, il a été élu, la démocratie a décidé, c'est clair. Mais avec un score qui ne permet pas de faire le fanfaron et puis d'être aussi sûr de lui comme il l'a été. Et c'est vrai que se confronter à un débat régulièrement, c'est une très bonne chose.
Je crois que c'est absolument nécessaire. Je crois qu'on ouais. ne l'avait pas forcément dit ou compris tout de suite. Je pense que les discours successifs du président doivent vous donner quand même la preuve et la conviction qu'il l'a compris et que nous tous, on est en train de changer notre façon de fonctionner.
Si il n'en sort rien, c'est la guerre civile. Vous êtes...
Je suis d'accord avec vous. S'il n'en sort
c'est un
rien,
jeu très dangereux. Hein.
Si il ne sort rien de ce grand débat, c'est pas nous qui tombons, c'est la France qui tombe. Donc c'est pour ça que je vous demande pas de faire confiance à notre gouvernement.
Non mais vous, on s'en fout si vous tombez à la
c'est
limite.
Ce que je, viens je viens de vous le dire. C'est pas nous ouais. on tombe, mais c'est la France qui tombe. C'est ça qui est plus grave, c'est pas nous. Un gouvernement, un président, ça se change avec la prochaine élection, il n'y a pas de problème. Par contre, la France, ça ne se change pas. Il n'y a pas une France de rechange, il n'y a pas une deuxième façon de rétablir la paix. Donc si on a menti aux Français, on fout la France à terre. Donc on n'a pas d'autre choix que de véritablement répondre à l'engagement qu'on a pris. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le président de la République, ce n'est pas juste un homme là-haut. Le président de la République, c'est le reflet des Français. Les Français ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Si le président qui est le reflet des Français leur dit « on va débattre ensemble et à la fin, je vais revenir vers vous parce que c'est ce que vous avez voulu et qu'on le fait pas », voilà. Possible.
On verra.
Léa Landau a des questions à vous poser, Mounir Majoubi.
Oui, Mounir Majoubi, alors vous étiez notre invité dans les précédents studios d'Europe 1, début ouais. 2018. J'avais enquêté sur vous et j'avais recueilli des infos inédites. J'aimerais donc profiter de votre venue dans ces studios tout neufs pour savoir s'il y a eu du neuf, justement, de votre côté. Alors, Mounir Majoubi, vous nous aviez confié à l'époque avoir obtenu un CAP cuisine, mais surtout savoir découper un poulet en 4-5. Qu'avez-vous appris de nouveau en cuisine, Mounir Majoubi ?
Alors, c'est intéressant... cette année a été très à la découverte culturelle, culinaire du monde arabe et du monde juif. Donc, pour ceux qui suivent mon Instagram,
ouais.
vous voyez que je fais des halotes de très haut niveau.
Ouais, c'est vrai,
je trouve
sont
qu'elles
belles.
Sont pas mal.
Elles sont belles, je les ai vues. Ouais.
Halotes fourrées, olives et
vous avez le temps de faire ça.
Ah, mais j'en ai même pris l'engagement à la maison de cuisiner au moins deux fois par semaine. Ah. Mais c'est ma place dans la maison qui est en jeu. C'est-à-dire que si je cuisine plus, c'est dangereux. Donc bah il faut. C'est important dans la relation amoureuse.
Alors, ça détend. Je comprends pourquoi j'ai jamais su garder quelqu'un en fait. Hein. Faut arrêter Picard.
Alors, vous nous aviez confié aussi à l'époque être toujours en retard, Mounir Majoubi. Est-ce que vous avez fait des progrès depuis ou c'est pire?
Énorme progrès.
Bah, vous étiez en avance ce matin.
Vous avez vu? Énorme progrès. Après, je vais vous avouer que mon équipe m'aide beaucoup, puisque maintenant ils me mentent sur les horaires.
Ah, bah voilà.
Donc, ils vous disent que le rendez-vous est une demi-heure.
Ah, oui,
plus.
J'ai un agenda qui m'est envoyé en permanence et je découvre à chaque fois que j'arrive que c'est pas vraiment le vrai horaire.
Donc,
mais c'est très bien.
C'est malin. Alors, sinon, place à du plus 2019. Parce que Mounir Majoubi, lorsque j'ai un secrétaire d'État chargé du numérique devant moi, j'ai envie aussi de lui poser des questions 100% numériques. Quel réseau social utilisez-vous le plus, Mounir Majoubi? Même si je le sais en réalité, puisqu'il suffit d'aller voir les vôtres pour savoir.
Bah, la transformation de cette année, c'est que je suis allé très vite j'ai accéléré sur Instagram.
Ouais.
C'était moins le cas l'année dernière. Et toujours Twitter.
Toujours Twitter à fond.
Mais toujours Twitter à fond, mais Instagram beaucoup plus.
J'ai regardé et vous ne suivez pas Anne Romanoff ni sur Insta, ni sur Twitter.
Oh.
Alors je me demandais pourquoi et il faudrait remédier à ça tout de suite.
Immédiatement.
Voilà. Et Anne, il faudra que tu renvoies l'appareil.
Mais je me suis, moi.
Ah bon? Ah, en plus.
Ah oui, s'abonner en retour. Hop, ça y est, c'est
voilà.
Vrai.
S'abonner en retour.
Ouais, super, Mounir Majoubi, comme ça vous pourrez suivre toutes les aventures de Anne.
Ah, oui.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Pour terminer, Mounir Majoubi, on a une tradition dans cette émission. Chaque jour, un invité commence une histoire. Et donc aujourd'hui, on est vendredi, à vous de la clôturer. Elle a été commencée lundi par Michel Larocque, poursuivie par François Bégodeau mardi, Stéphane Guillon mercredi et Véronique Dicker. À vous de la clôture aujourd'hui en piochant un mot.
Hacker.
Hacker. Donc il faut faire une histoire, terminer l'histoire en employant le mot hacker. Vous allez écouter ce qu'on fait les autres, c'est un petit peu loufoque. Hein.
Alors c'est l'histoire d'un brillantissime garçon qui faisait des études d'orthodontie. Et un jour, à côté de la fac, il rentre dans une boulangerie.
Et on lui propose une épilation intégrale. Alors il s'étonne et on lui dit, mais suivez-nous entre les murs, vous verrez, nous allons vous épiler. Il sort sans aucun poil sur le corps. Quelqu'un lui dit, non mais à mon avis, tu sais, toute cette histoire, c'est de l'humour noir. Et il commence à l'humour noir. Oui, je pense que c'est de l'humour noir. Le gars ne comprend pas pourquoi on lui dit ça. Il cherche. Et il va trouver la raison.
Il trouve la raison. Oui, il se trouve parce que finalement, il termine en faisant un spectacle qu'il a monté, en fait. Toutes les dents croches, l'épilation et tout ce qu'il a fait. Il avait un artiste en lui caché. Il est devenu imberbe, il s'est maquillé et il a fait finalement un spectacle à Las Vegas qui a cartonné.
Mais à son retour en France, on s'est posé quand même beaucoup de questions sur ces histoires un peu loufoques que ce monsieur racontait. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'il racontait qu'il avait aidé un métier qu'on ne comprenait pas, orthodontiste d'un côté, qui va à la boulangerie, qui se fait épiler et qui devient artiste à Las Vegas. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, il y avait un énorme détournement d'argent qui avait lieu dans la banque principale. Et à force de les suivre, on s'est rendu compte que ce monsieur, qui est capable de se faire passer pour tout le monde, sa plus grande spécialité, c'était le hacking. Le hacking par dissimulation de personnalité. Et qu'en fait, ce mec-là, c'est celui que tout le monde recherchait à travers le monde. Et j'étais très heureux de voir que mon collègue, Christophe Castaner, a pu lui-même piloter l'opération d'arrestation de ce très grand hacker qui se faisait passer pour un artiste.
Bravo, bravo.
Merci Mounir Majoubi d'être passé nous voir. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès lundi à 11h sur Europe 1.